Bonjour à toutes et à tous. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du mercredi 29 mai 2024. En direct de Washington, Rosine Monezero. Pour commencer, les titres. Au Mali, un proche du Premier ministre Choguel Kokala Maïga, qui avait signé une déclaration critique envers les militaires au pouvoir, a été placé en détention hier. Au Tchad, 20 membres de la famille de Yaya Diallo sont détenus au secret depuis la mort de cet opposant. En Afrique du Sud, les électeurs sont appelés aux urnes ce mercredi pour élire leurs députés. Les États-Unis ont fermement condamné mardi l'adoption définitive par le Parlement géorgien d'une loi sur l'influence étrangère. Dans notre partie magazine, Human Rights Watch s'inquiète d'exécutions sommaires après une tentative de putsch en République démocratique du Congo. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Écho. Pour l'instant, le journal. Le nouveau gouvernement de la République démocratique du Congo a été dévoilé mercredi, plus de 5 mois après la réélection du président Félix Tshisekedi et près de 2 mois après la nomination de la première ministre Judith Suminwa-Tuluka. La nouvelle équipe comprend 54 membres et 50 contre 57 pour le précédent gouvernement. Parmi les changements notables, les ministres sortants des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, de l'Intérieur, Peter Kazadi, des Finances, Nicolas Kazadi, quitte le gouvernement et sont remplacés par Thérèse Kayi-Kwamba-Wagner, Affaires étrangères, Jacquemin Chabani, Intérieur, Doudou Fouamba Likoundé, Finance. Parmi les ministres reconduits, Eve Bazaïba reste à l'environnement et Patrick Mouyaya demeure ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement. Parmi les permutations, Jean-Pierre Bemba passe de la Défense au Transport et il est remplacé par Guy Kabombo. Au Mali, un proche du Premier ministre Choguel Kokala Maïga, qui avait signé une déclaration critique envers les militaires au pouvoir, a été placé en détention hier, selon une source judiciaire. Nathalie Barge.
Boubacar Traoré avait été interpellé lundi par des agents du renseignement dans son bureau, quelques jours après la publication d'un communiqué s'opposant au maintien des militaires au pouvoir pendant plusieurs années. Il a été placé sous mandat de dépôt pour atteinte au crédit de l'État, outrage aux magistrats, trouble à l'ordre public, diffusion de propos mensongers attribués aux tiers par le pôle de lutte contre la cybercriminalité du tribunal de grande instance de la commune 4 de Bamako, indiqué une source judiciaire, ajoutant que son procès est prévu le 1er juillet. Le communiqué en question serait d'une faction du M5-RFP, restée fidèle au Premier ministre, nommée après le deuxième coup d'État en 2021. Ce mouvement est divisé en factions antagonistes. Rendu public vendredi, le texte critique l'éventuelle prolongation des colonels à la tête du Mali, à leur promotion au rang de général et à l'ouverture d'un dialogue avec les djihadistes. Ces propositions sont issues des consultations nationales et les autorités ont dit avoir l'intention de les mettre en œuvre. Boubacar Traoré est le second proche de Choguel Maïga à être placé en détention après Abdelkader Maïga, qui a été condamné le mois dernier à 2 ans de prison, dont un ferme pour diffamation.
La Cour suprême du Burundi a annoncé mardi qu'elle rendrait d'ici un mois son verdict dans le procès en appel de l'ancien Premier ministre Alain Guillaume Bunyoni, condamné en décembre à la prison à perpétuité. En première instance, le même tribunal l'avait jugé coupable d'avoir voulu renverser le gouvernement et d'avoir menacé la vie du président Évariste Ndayishimiye, ainsi que d'enrichissement illégal et de déstabilisation de l'économie. Lors de son procès en appel lundi et mardi, le général Bunyoni a de nouveau plaidé non coupable de tous les chefs d'accusation et demandé à être acquitté et a indiqué sous couvert d'anonymat une source présente aux audiences qui se sont tenues dans la prison centrale de Gitega où est détenu l'ancien dirigeant. Au Tchad, 20 membres de la famille de Yaya Diallo sont détenus au secret depuis la mort de cet opposant tués par l'armée en février dernier, selon Amnesty International. L'ONG dénonce un schéma répressif divisant les partisans de l'opposition et appelle à la libération des détenus et à une enquête indépendante sur la mort de Yaya Diallo. Le point avec Nani Talani.
Selon Amnesty, 26 personnes, toutes des membres de la famille de feu Yaya Diallo, dont 3 enfants, sont détenues au secret depuis plus de 3 mois dans la prison de Korotoro en plein milieu de désert, à la suite de l'assaut contre le PSF, le parti de l'opposant. L'ONG soutient que les droits des 26 détenus continuent d'être bafoués de manière flagrante, invoquant un schéma répressif visant les partisans de l'opposition au Tchad depuis plus de 3 ans. Amnesty exhorte les autorités de N'Djamena à respecter les droits humains. L'ONG demande notamment que les détenus soient libérés sans attendre s'ils ne sont pas rapidement inculpés d'une infraction et jugés dans le respect des normes internationales d'équité des procès. Monsieur Diallo, cousin du chef de l'État Mahamat Déby, est pressenti comme son plus dangereux rival pour la dernière présidentielle, avait été tué en février dans l'assaut du siège de son parti, le PSF. Le pouvoir avait nié son implication. Des pays occidentaux et des ONG internationales ont réclamé une enquête indépendante pour élucider les causes de la mort de M. Diallo, en vain pour l'heure.
Au Nigeria, des djihadistes ont tué quelques 30 pêcheurs dans le nord-est du pays en représailles à des bombardements de l'armée qui avaient tué nombre de leurs combattants, ont rapporté des miliciens anti-djihadistes et des pêcheurs. Les assaillants ont rejoint 3 îles en hors-bord et demandé aux pêcheurs de se regrouper avant d'ouvrir le feu dans leur direction, a relaté Ibrahim Liman, dirigeant d'une milice, ajoutant qu'ils ont tué de nombreuses personnes et ont poursuivi ceux qui tentaient de s'enfuir pour les abattre. L'armée nigériane n'a pas communiqué dans l'immédiat au sujet de cette attaque. En Afrique du Sud, les électeurs sont appelés aux urnes ce mercredi pour élire leurs députés qui vont ensuite désigner le président. Ce dernier sera issu du parti qui remporte les législatives. Les précisions de Yakuba Ouedraogo.
Les quelques 27,6 millions d'électeurs inscrits doivent désigner 400 députés. La nouvelle Assemblée nationale se réunira ensuite pour choisir le prochain président. Depuis l'élection du premier président noir Nelson Mandela en 1994, les électeurs ont été loyaux à son parti de l'ANC qui a libéré le pays du joug de l'apartheid. Mais la popularité du parti a chuté au fil des ans. Selon les enquêtes d'opinion, l'ANC oscille entre 40 et 47% des intentions de vote et pourrait perdre pour la première fois sa majorité absolue au Parlement. Une cinquantaine de partis sont en lice parmi les partis d'opposition, l'Alliance démocratique, plus grande formation d'opposition, les combattants pour la liberté économique de Julius Malema, entre autres. La plus grande menace pour le parti au pouvoir pourrait toutefois provenir du parti de l'ancien pilier de l'ANC, Jacob Zuma. Lumkonto Wesizwe, de l'ex-président de 82 ans, candidat mais finalement déclaré inéligible, pourrait capitaliser sur les déçus du parti historique. Une cinquantaine de partis sont en lice et pour la première fois, des candidats indépendants pourront prendre part aux législatives.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le conseil présidentiel de transition en Haïti a choisi mardi Gary Conille pour devenir le nouveau premier ministre intérimaire, ont annoncé plusieurs membres de ce conseil au moment où ce pays des Caraïbes se trouve en pleine crise politique, sécuritaire et humanitaire. Gary Conille, médecin de 58 ans, qui fut déjà premier ministre d'Haïti pendant 6 mois entre 2011 et 2012, a été nommé à la suite de la démission en mars du premier ministre Ariel Henry, face à une flambée de la violence des gangs dans le pays. Les États-Unis ont fermement condamné mardi l'adoption définitive par le Parlement géorgien d'une loi sur l'influence étrangère, malgré de multiples manifestations et des avertissements de la communauté internationale contre un texte calqué sur une loi répressive russe. Le point avec Eric Manilakid.
Le porte-parole du département d'État, Matthew Miller, a déclaré qu'en adoptant cette loi, le parti au pouvoir en Géorgie, le rêve géorgien, éloigne le pays de la voie de l'intégration européenne et ignore les aspirations euro-atlantiques du peuple géorgien qui est descendu dans la rue pendant des semaines pour s'opposer à cette loi. Elle impose aux ONG ou médias recevant plus de 20% de leur financement de l'étranger de s'enregistrer en tant qu'organisation poursuivant les intérêts d'une puissance étrangère et de se soumettre à un contrôle administratif. Les détracteurs du texte le qualifient de loi russe pour sa similitude avec une législation sur les agents de l'étranger utilisée en Russie depuis 2012 pour réprimer toute voix dissidente. En réponse, le secrétaire d'État Anthony Blinken a ordonné la semaine dernière un réexamen complet des relations de coopération avec Washington. Il a également annoncé des restrictions de visa de séjour aux États-Unis visant les personnes jugées responsables de saper la démocratie en Géorgie ainsi que leurs proches. Les États-Unis, qui fournissent environ 390 millions de dollars d'aide à la Géorgie, pourraient revoir cette assistance. La Géorgie, ancienne république soviétique, est officiellement candidate à l'entrée dans l'Union européenne depuis décembre 2023 et aspire également à rejoindre l'OTAN.
À présent, la Minute Éco avec Nani Talani.
Le taux de croissance de la Guinée devrait tomber à 4,2% en 2024 contre 5,4% initialement projeté, a déclaré lundi le Premier ministre Amadou Ouriba dans un discours. M. Ba a imputé la baisse projetée du taux de croissance au choc lié au coût de la vie, au conflit et à l'exacerbation des tensions géopolitiques, à la persistance des séquelles de la pandémie et l'explosion survenue fin 2023 dans un important terminal pétrolier. En Éthiopie, le commerce du khat, une plante de stupéfiants dont le principe actif est similaire aux amphétamines, est en berne car entre 2019 et 2022, la plante a représenté environ 10% de la valeur des exportations nationales, selon la Banque centrale. Pour terminer, les autorités zimbabwéennes en charge de la faune sauvage veulent se tourner vers les marchés d'exportation de la chasse aux trophées dans l'Est, a déclaré Fulton Mangwanya, directeur général de Zimpax, en marge du sommet de la zone de conservation transfrontalière Kavango-Zambezi à Livingston en Zambie.
Place maintenant au sport avec Yakuba Ouedraogo. Bonjour Yakuba.
Bonjour Rosine, bonjour à tous.
Samuel Eto'o nomme un staff intérimaire à la tête des Lions indomptables du Cameroun.
Oui, hier, c'était la première fois que le président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o fils, et le nouveau sélectionneur des Lions indomptables, Marc Brice, nommé par le ministre des Sports suite aux très hautes directives du président de la République, Paul Biya, début avril, sans aucune consultation de la fédération, se rencontraient. Le technicien belge avait été invité par Eto'o à une séance de travail alors que le Cameroun se prépare pour les éliminatoires de la Coupe du Monde le mois prochain. Mais plusieurs des collaborateurs de Brice nommés par le ministre des Sports se sont vus refuser l'entrée dans le bâtiment de la FECAFOOT. Une vidéo circulant sur les médias sociaux montre Eto'o d'abord expulser un fonctionnaire du ministère des Sports qui voulait assister à la réunion. Le patron de la FECAFOOT a ensuite eu un échange enflammé avec Marc Brice qui a quitté les lieux immédiatement. Le Cameroun affronte le Cap Vert le 8 juin à Yaoundé et trois jours plus tard, l'Angola lors des matchs des 3e et 4e journées des éliminatoires du Mondial 2026.
Justement, Victor Osimhen, lui, est forfait pour ses matchs de qualification.
L'attaquant nigérian de Naples s'est blessé et ne disputera pas les deux matchs de qualification pour ce Mondial 2026 programmé en juin, selon l'annonce faite par la Fédération nigériane de football. La fédération, qui n'a pas précisé la nature de sa blessure, indique que Victor Osimhen sera indisponible 4 semaines. Il va donc manquer la réception de l'Afrique du Sud le 7 juin et le match contre le Bénin délocalisé en Côte d'Ivoire le 10. Deux rencontres cruciales pour les Super Eagles, troisième du groupe C, avec 2 points après avoir concédé 2 nuls lors des premiers matchs. Entré dimanche à la 65e minute pour ce qui devrait être son dernier match sous le maillot napolitain, Osimhen était resté muet. L'attaquant nigérian, meilleur buteur de Série A la saison dernière avec 26 buts, a fini cette saison avec 15 réalisations.
Basketball Africa League avec les demi-finales de la saison 4 qui se jouent aujourd'hui à la BK Arena de Kigali.
Les Rivers Hoopers du Nigeria feront face aux Libyens d'Al Ahly. C'est la première fois que les deux formations formation atteignent ce stade de la compétition. Basé à Port Harcourt, les Nigériens avaient réalisé une performance moyenne lors du match de classement, mais ont réagi en quart avec une victoire de 4 points contre l'US Monasti, qui visait son deuxième titre de BAL après son premier sacre en 2022. Les Hoopers tenteront d'arracher une place pour la finale, mais la mission s'annonce compliquée devant les Libyens d'Al Ahly, désormais seuls à n'avoir subi aucune défaite en play-off. Dans l'autre demi-finale, les Cape Town Tigers d'Afrique du Sud vont jouer contre les Angolais de Petro de Luanda, emmenés par leur nouvel entraîneur Sergio Valdeomilos. Les champions sud-africains, eux, se sont qualifiés pour les play-offs en tant qu'une des meilleures équipes classées troisième dans les trois conférences, mais se sont métamorphosés depuis le début de ces play-offs du côté de Kigali.
Le Monde, aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Rosine Mounezero de retour avec vous pour les dossiers du jour. Human Rights Watch s'inquiète d'exécutions sommaires après une tentative de putsch en République démocratique du Congo. Selon l'Organisation de défense des droits humains, le gouvernement a à la fois la responsabilité d'assurer la sécurité du pays et de demander des comptes responsables de la tentative de coup d'État sur la base des normes internationales en matière de procès équitable. Pour une réaction, Eddie Isango a joint par téléphone à Kinshasa le coordonnateur de la Commission nationale des droits de l'homme, Paul Nsapu.
Sur le fait, il y a eu une réaction que d'aucuns pourraient parler de disproportionnée, mais avec des gens qui étaient armés et intentionnellement préparés à commettre des actes répréhensibles par la loi, par la Constitution, comme je venais de le dire. Nous déplorons cela, mais en même temps, nous restons saisis et vigilants sur le respect des procès, certainement, qui vont s'ouvrir au niveau de la Commission nationale des droits de l'homme. Nous suivons de très très près cette situation que nous avons déplorée puisqu'on venait de terminer avec le processus des élections et les élections qui se sont terminées il y a à peine quelques mois et que l'on vive ce que l'on a vécu en termes de tentative de coup d'État dans une institution publique, le bureau du chef de l'État. Il y a de quoi déplorer cette situation, cette tentative de prise de pouvoir par la force. Or, les Congolais ont conjuré de ne pas utiliser la force pour accéder au pouvoir ou se maintenir au pouvoir.
Human Rights Watch rappelle aux autorités les droits qu'ils ont, les devoirs de protéger la population, mais aussi de demander des comptes à ceux qui commettent des histoires comme des coups d'État. Et elle souligne que quand les gens ne sont pas armés, il fallait peut-être les arrêter et ils étaient non armés à ce moment-là.
Si vous regardez les vidéos qui ont circulé, des gens ont été arrêtés. Ils sont devant des commissions qui travaillent pour enquêter et déférer ces personnes devant les cours et tribunaux. Voilà pourquoi la CNDH reste saisie, mais encore une fois, la CNDH a déploré et continue à déplorer le fait qu'on puisse recourir à la force pour prendre le pouvoir. Notre constitution condamne cela énergiquement.
Y aura-t-il des sanctions contre ces militaires? Pensez-vous qu'ils ont reçu l'ordre d'accomplir ce qu'ils ont fait?
Oui, tout à fait. Il y aura des condamnations, je suppose, mais nous sommes à l'étape où il y a des enquêtes et nous-mêmes, nous restons saisis. Et lorsque les procès vont se dérouler, nous allons suivre de très très près. Et aujourd'hui, il y a des enquêtes qui se poursuivent pour comprendre comment cette tentative s'est réalisée. Y a-t-il de ramifications? Y a-t-il de plans qui étaient préparés? C'est à la commission qui est mise en place de nous éclairer. Nous-mêmes, nous allons suivre de très très près cette situation pour que le droit et les normes en matière de justice triomphent.
Paul Nsapu, coordonnateur de la Commission nationale des droits de l'homme à Kinshasa.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique à Lubumbashi, c'est sur 102.8 FM en République démocratique du Congo.
Au Mali, l'interpellation de Boubacar Traoré, proche du Premier ministre Choguel Kokala Maïga, après la publication d'un document critique de la junte, marque une escalade des tensions politiques et pourrait sceller la rupture entre Maïga et les colonels au pouvoir, selon certains observateurs. Pour en parler, Eric Manilakiza a joint à Bamako le journaliste Sékou Tangara.
Il faudrait voir peut-être deux conséquences. La première, de mon point de vue, c'est qu'il y a une volonté des militaires de s'assumer. Aussi bien les récriminations qui pourraient venir de la droite ou de la gauche, les militaires ne sont plus à même d'accepter et d'entendre ces récriminations-là, que ce soit de la part de voix discordantes du régime de la transition ou bien même de voix qui sont partisanes de la transition. Les récriminations, les reproches d'où qu'ils viennent ne sont plus acceptés. Donc il y a une volonté de s'assumer. Premier point. Le deuxième point en termes de conséquences, c'est la fin de ce qui pourrait être convenu comme une idylle entre les forces du changement, puisqu'après le coup d'État qui a mis fin au régime de Ibrahim Boubacar Keïta, on a parlé de forces conjointes, les forces du changement, d'un côté le CNSP, les cinq colonels, et de l'autre côté le mouvement du 5 juin, rassemblement des forces patriotiques. Les deux se sont mis ensemble et aujourd'hui, avec cette interpellation au cabinet du Premier ministre, au nez et à la barbe du chef du gouvernement, de l'ancien président du comité stratégique du M5-RFP, on peut dire que cette idylle, cet amour entre les forces du changement est derrière nous.
Quels pourraient être les impacts sur la liberté d'expression et les droits de l'homme au Mali suite à cette interpellation?
Bon, l'impact, il est là. Il faut reconnaître un régime d'exception dès lors que la Constitution elle est mise entre parenthèses et dès lors que les activités politiques ou d'ordre politique sont suspendues. On était même surpris qu'il y ait ce mémorandum du M5-RFP, sachant bien même que l'ancien président du comité stratégique du M5, l'actuel Premier ministre, ait accepté de signer le décret qui mettait fin aux activités des partis politiques. Donc l'impact, il est là. Je pense qu'on est dans la confirmation du régime d'exception. Ce sont des militaires qui sont au pouvoir. Ils veulent ils veulent s'assumer. Ils tiennent à ce régime comme la prunelle de leurs yeux. Ils s'en cachent plus. Et certains politiques, des civils, un moment, s'étaient accommodés de cette situation. Et c'est pas parce qu'ils sont interpellés aujourd'hui qu'il faut se poser des questions. On a l'impression que les militaires veulent s'assumer. Ils veulent aller jusqu'au bout de leur logique, de leur raisonnement, et mettant tout le monde d'accord qu'on est vraiment dans un régime d'exception, un régime de transition.
Sékou Tangara, journaliste à Bamako.
Restez branchés 24/24 sur VOA Afrique à Bamako, au Mali, sur 102.0 FM.
En Guinée, les restrictions visant certains médias sont toujours d'actualité. Selon le gouvernement, les radios et télévisions dont les agréments ont été retirés sont coupables de mauvaises pratiques du métier, alors que pour les médias concernés, les autorités ne sont pas favorables aux critiques. On fait le point avec notre correspondant Zakaria Camara.
Quatre radios et deux chaînes de télévision sont interdites d'émettre. La décision du ministre guinéen de l'information et de la communication est diversement appréciée dans les rues de Conakry.
Très très content. C'est pas moi seul, il y a beaucoup de gens. Ils ne considèrent pas les gens. Moi je suis très content de Doumbouya. Mais pourquoi en Guinée ici, on fait n'importe comment? Il y a les radios qui sont là, qui parlent n'importe comment.
Combien de Guinéens aujourd'hui qui étaient connectés à l'espace Djuma, FM et FM? Donc il devrait vraiment penser à ça. Ça, c'est pas la solution de la transition, ça, au fait. Là où nous sommes maintenant, là, il y a eu au moins 70% aujourd'hui des Guinéens qui ne sont pas à l'info, qui n'est pas maintenant à l'abri à l'information.
Lundi, le Premier ministre Amadou Riba s'est prononcé sur la situation de la presse guinéenne. La liberté de la presse ne veut pas dire une licence pour insulter, a-t-il déclaré devant les conseils nationaux à Conakry. Mais les propos des autorités guinéennes sont jugés inacceptables par les patrons de presse. Aboubacar Kondé, directeur de l'information du groupe Djoma.
Nous sommes en administration. Avant que le gouvernement ne nous accuse, je pense que le régulateur qui est la HAC, la Haute Autorité de la Communication, c'est l'institution la mieux indiquée pour nous dire qu'effectivement, nous avons enregistré des manquements, mais jusqu'à date...
Pour le directeur adjoint des programmes de FIM FM, le gouvernement ne veut pas entendre des voix qui critiquent sa gestion. Ibrahim Assouri, Lincoln Souma.
Il faut simplement rappeler que les autorités de la transition ne veulent plus que les journalistes le rappellent à leur engagement. Ça leur fait mal quand on parle du respect du chronogramme de la transition. Ça leur fait mal quand on parle du retour à l'ordre constitutionnel. Ça leur fait mal quand on invoque les cas de mort dans les manifestations qui sont restées impunies, contrairement à l'engagement du président qui a dit que Guinéen devrait mourir pour la politique.
Dans un communiqué, le gouvernement guinéen, par la voix de son porte-parole, accuse certains médias de violation abusive de l'article 6 du cahier de charge. Des accusations rejetées par le syndicat de la presse professionnelle de Guinée, qui accuse à son tour les autorités d'avoir violé la loi sur le retrait des agréments. Zakaria Camara, pour VO Afrique, Conakry.
À votre avis, une émission interactive sur VOA Afrique. Du lundi au vendredi, micro ouvert sur l'actualité brûlante, les sujets sociaux et culturels. Enregistrez vos réactions sur WhatsApp +1 202 297 60 89. Participez en nous contactant sur notre page Facebook ou appelez-nous en direct à partir de 18h05, temps universel, au +1 202 205 26 33. À votre avis, la parole est à vous, tous les jours, sur VOA Afrique.
Au Togo, l'énergie solaire à la cote, surtout en cette période de crise énergétique que connaît la sous-région. Beaucoup de ménages se tournent vers cette solution énergétique qui est non seulement durable, mais aussi économique et bénéfique pour la planète. À ce jour, elle est une solution prometteuse pour un futur décarboné, même si son utilisation en Afrique constitue un défi. Reportage de notre correspondante à Lomé, Amène Assignon.
Agbagnon Kofivi est imprimeur. Cet après-midi, il peut se réjouir de travailler sur son ordinateur. En effet, depuis quelques semaines, impossible pour lui et son équipe d'honorer les commandes, du moins le peu qu'il a en ces temps de délestage récurrent. En effet, les coupures intempestives du courant ont contraint l'entreprise à revoir son rythme de travail. Et cela n'est pas sans conséquence sur son chiffre d'affaires.
On peut comptabiliser peut-être à 150-200 000, mais jusqu'à présent, avec le délestage, on n'arrive même pas à travailler. Nous sommes peut-être dans les 15-20 000. Ça empiète vraiment sur nos activités.
Des heures de coupure d'électricité souvent sans préavis du fournisseur national. Le quotidien des Togolais devient pénible. Une situation qui porte surtout un coup dur aux activités économiques dans le pays. Spécialisé dans les fruits bio, ce restaurant par exemple, où Juliette Sogadi est serveuse, est à l'épreuve de la conservation de ses produits à cause du délestage.
Depuis plus d'une semaine maintenant, nous avions connu des coupures incessantes et intempestives qui ont provoqué d'énormes dégâts dans nos produits où nos fruits sont pourris.
Même son de cloche pour les produits congelés, comme les poissons, explique Richard Maoussi, tenancier de frigo.
Avec la chaleur causée par le délestage, nous avons du mal à conserver nos produits. Quand le courant est coupé pendant une longue durée, nos poissons pourrissent. Pour réduire les pertes, nous avons réduit notre approvisionnement.
Les autorités togolaises expliquent ce déficit énergétique par les perturbations enregistrées dans l'approvisionnement en gaz naturel au plan régional. Face à la crise, la CET, la compagnie d'énergie électrique du Togo, chargée de la fourniture du courant, se veut néanmoins optimiste. Dans un communiqué, elle a indiqué mettre tout en œuvre pour un retour progressif à la normale. En attendant, un plan de rationnement de l'électricité a été mis en place à Lomé, la capitale. Amène Assignon pour VOA Afrique, Lomé.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Rosine Monezero à ce micro, Firmin Koyaweda a assuré la production et la réalisation. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, la plateforme X et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente journée à l'écoute de nos programmes. Au revoir.